transprimée par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 mai 85.
Je crois que la meilleure façon pour nous préparer aux journées de la Pentecôte, puisque ça s'approche, et puis comme je serai absent la semaine prochaine en allant en Pologne, ça va s'approcher encore plus pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que cette semaine-ci, puis la semaine en retour. La meilleure façon de nous y préparer, c'est d'essayer de demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à vivre avec Marie ces très grands mystères de l'Ascension et de la Pentecôte. C'est dans cette lumière-là qu'on doit toujours comprendre notre vie contemplative. Le mystère de l'Ascension est vraiment un mystère dans lequel on ne peut entrer pleinement, un peu comme la résurrection, que dans la lumière d'une vie contemplative, que dans l'exigence de la contemplation. Parce qu'au point de vue purement humain, au point de vue purement terrestre, ce sont des mystères qui nous dépassent complètement. Jésus ressuscite n'étant plus de ce monde. Alors si on reste dans une perspective qui n'est pas suffisamment contemplative, qui reste trop liée à une perspective terrestre, même si elle est un peu spirituelle, je dis spirituelle, vous voyez, par le point de vue artistique, l'art est spirituel. Pas l'oublier, mais il n'est pas surnaturel et il n'est pas pleinement contemplatif. Il est spirituel. Dans une perspective qui n'est pas suffisamment surnaturelle et contemplative, le mystère de la résurrection et le mystère de l'ascension, comme le mystère de la Pentecôte, risquent de nous échapper complètement. Et c'est vrai qu'il y a peu de chrétiens qui vivent pleinement du mystère de la résurrection. Du mystère de l'ascension, on n'en parle pas beaucoup. C'est très vite fait. Alors que c'est un mystère si grand. Et un mystère qui veut nous enseigner à avoir une attitude qui, justement, est une attitude qui est pleinement celle que nous devons avoir comme chrétiens. Nous sommes des étrangers à cette terre, hein, dit saint Paul. Nous sommes comme des étrangers. Oui, tout notre souci aujourd'hui est une adaptation. C'est vrai, d'une façon courante. Je ne dis pas ici, dans votre noviciat, vous n'avez pas chacun la télévision et pour vraiment vous adapter pleinement à tous les événements d'aujourd'hui. C'est pas le souci dominant. Vous ne recevez pas 5-6 journaux de tendances diverses pour bien faire le point. Ce n'est pas le souci dominant. Mais en dehors, dès qu'on quitte, chaque fois que je vais à Paris, ça me frappe toujours. De façon étonnante de voir combien on a peu ce dépassement. Parce que on est très orienté vers le point de vue de notre monde d'aujourd'hui. On a beaucoup de peine à s'élever plus haut, à avoir un appel vers quelque chose de plus. Il y a en même temps un très grand désir, une très grande soif. On sent bien cela. Mais c'est très difficile de le réaliser concrètement dans le monde d'aujourd'hui. L'appel vers la vie contemplative est difficile. Alors, je crois qu'il faut beaucoup profiter de ce temps du noviciat qui vous est donné ici. Je sais bien que c'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on peut vraiment s'orienter pleinement vers la vie contemplative, mais c'est un point de départ qui nous apprend le recueillement, qui nous apprend l'intériorité, qui nous apprend à ne pas être des girouettes qui, tout le temps, sont attirées à droite et à gauche sans s'occuper du tout des choses plus profondes. Sans s'occuper de ce regard du Christ actuel sur nous, ce regard qui demeure, ce regard d'éternité dans le temps. On regarde le temps et on oublie l'éternité dans le temps. Et c'est justement ce que nous devons découvrir, nous, dans un regard contemplatif. Découvrir cette lumière d'éternité présente à chaque instant du temps. Ceci me semble particulièrement net quand nous regardons le mystère de l'ascension. Voyez l'attitude des apôtres. Elle est très nette et elle est dite dans les Actes des apôtres. Les apôtres interroge encore Jésus sur les réalisations qu'il n'a pas encore faites. Et comme il se trouvait avec eux, il leur prescrit de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre la promesse du Père, celle que vous avez entendue de moi. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogeaient en disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir la royauté pour Israël ?» Ils attendent de Jésus une réalisation concrète. La royauté pour Israël. Ils n'ont pas compris le mystère de la croix. Ils n'ont pas compris le mystère de la résurrection. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou moments que le Père a fixés de son propre pouvoir. Mais le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Voyez la différence de réponse de Jésus. La royauté pour Israël, c'est « vous serez mes témoins ». C'est quelque chose complètement divers. Complètement autre chose. Je crois que c'est très significatif cela. C'est tellement difficile pour nous de dépasser un messianisme temporel. Ça me semble la nostalgie la plus permanente chez les chrétiens et la plus difficile à dépasser. Ce messianisme temporel où on veut que Jésus réalise tout de suite quelque chose pour que nous voyons bien qu'il est là, qu'il est avec nous. Le messianisme temporel, c'est de faire que il y ait immédiatement un résultat tangible dans le temps. Je crois que la théologie de la libération, dans notre monde d'aujourd'hui, est encore une forme d'un messianisme temporel. Une forme un peu subtile peut-être, mais c'est encore une forme d'un messianisme temporel. On a beaucoup de peine de comprendre que la grâce chrétienne n'est pas premièrement une grâce qui réalise immédiatement pour nous une transformation de tout ce qui est tout proche de nous. On a beaucoup de peine de comprendre que la grâce chrétienne nous lie à la croix de Jésus et que nous sommes tous liés à la croix du Christ et que plus nous nous sanctifions, plus nous sommes dociles au Saint-Esprit, plus nous sommes liés à la croix du Christ. La croix du Christ, c'est pas tout à fait le messianisme temporel. Scandale, folie pour notre intelligence et notre sensibilité. Sagesse divine pour le croyant. Pour le croyant, c'est magnifique, ça ne peut pas être plus grand. Mais pour l'homme qui est en nous, l'homme sensible, l'homme qui raisonne, c'est rude. C'est la taille du Père qui va si profonde et qui exige une remise totale dans une espérance de pauvre et dans une foi toute contemplative et toute aimante qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Je crois que c'est assez significatif. Quand on regarde l'attitude de ces apôtres en face de ce dernier moment de la vie de Jésus, les théologiens continueront de poser des questions invraisemblables au point de vue de théologie, et Jésus reviendra dans sa gloire. Les théologiens remueront encore tout le point de vue de la théologie de la libération, et le Christ reviendra dans sa gloire. Il y aura quelque chose comme ça, j'en suis sûr. C'est significatif, l'alpha et l'oméga, c'est significatif. On voit très très bien ça. Comme on a de la peine à entrer pleinement, chacun d'entre nous, parce qu'on a tous son petit messianisme temporel, hein, tous, son petit messianisme temporel, c'est une réalisation concrète. On a de la peine d'entrer dans une pauvreté de l'intelligence. C'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, la pauvreté de l'intelligence et la pauvreté du cœur. C'est encore plus difficile la pauvreté de l'intelligence que la pauvreté du cœur. Parce que l'intelligence, instinctivement, elle veut posséder. Et elle possède. Hein. Elle a une modalité où elle assimile les choses, elle les prend. On a une peine énorme d'être dans cette attitude de soumission à l'égard du réel et surtout à l'égard de Jésus qui est la réalité. La réalité plénière, c'est Jésus. Et Jésus dans sa gloire. Se soumettre à lui et le suivre. On a une peine énorme d'entrer dans cette attitude qui pourtant est absolument nécessaire si on veut vivre du mystère de l'ascension. On voit très bien ce désir des apôtres. Ils ont attendu, après la résurrection, puisque Jésus ressuscitant peut tout. Et donc, il doit normalement réaliser en premier lieu ce que les apôtres attendent. Jésus doit réaliser en premier lieu la royauté en Israël, rétablir le royaume d'Israël, rétablir ce que, d'une certaine manière, a été prophétisé. On l'attend. Vous savez bien, c'est un des signes du reste qui demeure. Si le Christ avait été vraiment le véritable Messie qui devait venir, mais toutes les prophéties de l'Ancien Testament seraient réalisées. Ça se dit encore aujourd'hui, je l'ai entendu. Toutes les prophéties devraient être réalisées, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, toutes les prophéties d'Isaïe, d'Ézéchiel devraient être réalisées. Et au fond, on comprend toujours matériellement. Et on veut ramener une réussite immédiate. Alors, on ne comprend pas cette mission d'intériorité qui est première. Ça n'exclut pas le reste. Il faut que le royaume de Dieu s'incarne. Il faut que le royaume de Dieu se réalise dans des faits, des gestes, c'est bien évident. Mais c'est premièrement une mission intérieure de lumière et d'amour. C'est notre cœur que l'Esprit Saint veut convertir. Si notre cœur n'est pas converti, rien n'est fait. Si notre cœur accepte d'être converti, alors à ce moment-là, l'Esprit Saint pourra permettre que cette conversion intérieure progressivement s'empare de toute la pâte humaine qui est en nous, s'empare de nos mains, de nos pieds, de toutes nos actions et de tout nous-mêmes. Mais c'est d'abord cette conversion intérieure de l'intelligence et du cœur. C'est cela, je crois, qui est peut-être le plus difficile pour nous. Parce que nous sommes des êtres concrets, des êtres qui surtout quand on souffre, surtout quand on voit d'autres qui souffrent à côté de nous, surtout quand on voit les misères de notre monde d'aujourd'hui, les injustices de notre monde d'aujourd'hui, quand on voit tout cela, on a un désir très très grand, qui est noble, qui est beau, d'une réalisation concrète du royaume de Dieu, autour de nous et en nous. Et on veut que ça se fasse tout de suite. Et Jésus, à cette interrogation des apôtres, Jésus donc répond d'une manière très nette. Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de son propre pouvoir. Entrez dans une sainte ignorance. Et ceci demeure toujours vrai pour nous. Parce que nous ne savons pas à quel moment il y aura le retour du Christ. Et Jésus parle en réalité du retour du Christ. Les apôtres attendent un royaume temporel et Jésus, lui, regarde son retour d'amour. Mais le Saint-Esprit surviendra sur vous. Voyez bien, voilà l'œuvre de l'intériorité, c'est l'Esprit-Saint. Celui que le monde ne peut pas recevoir. Parce que le monde attend des choses visibles. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de lumière et d'amour. C'est du dedans qu'il transforme tout. Et c'est pour ça que c'est vraiment cette intériorité profonde du cœur et de l'intelligence. Et je dis bien du cœur et de l'intelligence. On n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a uni pour que nous soyons des témoins. Témoin de cet amour, témoin de la Pentecôte d'amour, comme disait la petite Marthe. Pentecôte d'amour, cette Pentecôte d'amour qui est là, présente, c'est sûr. Il faut que nous soyons des témoins de cette Pentecôte d'amour, il faut que nous soyons témoins de cette œuvre intérieure de l'Esprit-Saint, des témoins vivants, c'est-à-dire ceux qui vivent de ce mystère. Et à ces mots, sous leur regard, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça, c'est la réponse la plus adéquate. Il demande que le royaume s'établisse sur la terre et Jésus s'élève dans les cieux. Ça, ça doit être quelque chose de foudroyant pour eux. Parce que quand c'est une parole, on peut encore discuter. Et quand c'est un geste comme celui-là, et à ces mots, sous leur regard, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, ce qui prouvait qu'ils étaient saisis, qu'ils étaient pris, tandis qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes se présentèrent à eux, en habit blanc. Et ils vinrent, et ils dirent, « Galiléens, pourquoi vous tenez-vous là ?» regardant vers le ciel. Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous vers le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. C'est très net. De l'ascension au retour du Christ. Vit ce temps. Et c'est à partir de l'ascension, l'ascension liée à la résurrection, mais c'est à partir de l'ascension. Il y a eu une période intermédiaire, toute cette période des apparitions, qui était très agréable, qui était très belle. Si elle avait pu durer, hein. Toute l'Église aurait été transformée, bien évident. Vous voyez, si régulièrement Jésus nous rendait visite, si au noviciat, il y avait de temps en temps des petites apparitions merveilleuses de Jésus. Et Jésus viendrait d'abord consulter le Père Maître et dirait, alors qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il y a des choses qui ne vont pas très bien. Et le Père Maître dirait immédiatement que, étant donné que la parole de Jésus est efficace, qu'il doit insister sur tel ou tel point. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et qu'ils doivent se rectifier, ce serait magnifique, c'est évident, et pas seulement au noviciat, mais dans tous les couvents, dans tous les monastères. Vous voyez ça pour les petites contemplatives, ce serait extraordinaire, elles seraient rayonnantes, on verrait le soleil sur leur figure, en disant, mais oui, c'est pas étonnant, elles ont eu une apparition hier, et quelque chose d'inouï. Et dans toutes les paroisses et partout, on aurait ce critère visible de vérité, là, quelque chose de... C'est étonnant, hein. Tout ça, ça aurait pu très bien se faire. Ça coûte pas plus cher, hein. C'est bien évident, ça aurait pu très bien se faire, c'est très très facile. Dieu ne l'a pas voulu. Je crois qu'il faut entrer dans cette pauvreté, parce que ça c'est une pauvreté, c'est Dieu qui exige une pauvreté. C'est pour notre foi, notre espérance. Cette espèce de pauvreté extraordinaire. Jésus qui quitte au moment où il demande qu'il soit là et qu'il soit à la tête du royaume d'Israël. Toute la grande attente dure jusque-là. Et alors enfin, il commence peut-être à comprendre. Ce sera l'Esprit Saint qui le fera comprendre ça pleinement et totalement. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, vous voyez, elle n'est pas premièrement charismatique. L'œuvre de l'Esprit Saint, elle est premièrement dans l'ordre de la pauvreté. Leur faire comprendre que Jésus n'est pas venu premièrement pour rétablir le royaume d'Israël. Il est venu premièrement pour nous donner une confiance, une foi divine dans le mystère de la rédemption. Nous sommes des sauvés. Et nous faire comprendre que nous sommes faits en premier lieu pour le ciel. En premier lieu pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et nous sommes faits en premier lieu pour ça. La foi et l'espérance qui permettent à l'amour de creuser. Je crois que c'est important pour nous de comprendre ça. Et concrètement dans notre vie, vous voyez, de saisir que nous sommes de fait. Je ne dis pas orphelin. Là, c'est là où il faut bien comprendre. On n'est pas orphelin. C'est sûr. On n'est pas des orphelins. Jésus ne veut pas qu'on soit des orphelins. L'Esprit Saint et Marie sont là pour qu'on ne soit pas des orphelins. Et du dedans, ils sont là pour nous aider. Mais nous sommes taillés par le Père. La taille du Père pour qu'on ne soit pas orienté en premier lieu vers le rétablissement de la royauté en Israël. Pour qu'on ne soit pas orienté en premier lieu vers une réalisation temporelle, visible, aussi bien du côté de l'intelligence que du côté du cœur. Et qu'on accepte cette pauvreté radicale. Qu'on accepte d'être ceux qui attendent le retour du Christ. Il reviendra. Et c'est dit avec netteté, ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous vers le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il faut que nous ayons cette soif de l'attente. Vous voyez, l'ascension, c'est une purification par rapport au désir d'une réalisation d'un messianisme temporaire, une purification radicale. Et en même temps, un désir intense du retour du Christ. Je crois qu'on ne vivrait pas du mystère de l'ascension si on n'avait pas ce désir intense du retour du Christ. Et ce désir intense du retour du Christ, il doit augmenter chaque année. Hein. Chaque année, il faut qu'il soit plus intense. Pas à cause des révélations et des signes. C'est pas à mépriser. Je vous l'ai dit l'autre jour, il ne faut pas les mépriser, ces signes. Il faut au contraire, il ne faut pas les chercher par-dessus, ne soyez pas collectionneurs de tous les signes, de toutes les apparitions. Non, ce n'est pas ça, je crois, votre mission. Mais il ne faut pas les mépriser. Et quand on entend des personnes qui vous rapportent qu'elles ont reçu telle ou telle grâce en tel ou tel milieu, ben, très bien, on est heureux qu'elles aient reçu ces grâces. On dit « Priez bien la Sainte Vierge, et puis restez-lui fidèle, et puis attendez le retour du Christ. » Mais attendez le retour du Christ en travaillant. Attendez le retour du Christ en accomplissant pleinement et totalement votre devoir d'État, en le faisant le mieux possible, avec le plus d'énergie possible. Et attendez le retour du Christ en mangeant normalement, en disant « J'ai plus qu'un jour à attendre, ça va. » Non, normalement. C'est-à-dire avec une prudence éclairée par le point de vue du don de conseil. Ce qui importe, c'est de bien vivre cette pauvreté si radicale. Parce qu'elle est très radicale. Elle consiste à entrer pleinement dans cet appel de Jésus. De pauvres, pour attendre le retour du Christ. Je crois que pour vivre parfaitement ce mystère de l'ascension et mieux comprendre comment les apôtres ont eu de la peine à le vivre, c'est vrai, ils ont eu de la peine à le vivre, comme nous-mêmes, hein, nous avons de la peine à vivre ce mystère de l'ascension. Et pourtant, il faut que nous le vivions. Ça fait partie de notre credo et c'est quelque chose de très grand, puisque c'est une grande purification et un grand élan d'amour. Je crois que pour vivre parfaitement ce mystère de l'ascension, il faut demander à la Vierge Marie. Ça fait partie des mystères du rosaire. Et je vous ai dit, les mystères du rosaire, c'est Marie qui nous éduque. C'est la grande éducation de Marie, c'est la grande pédagogie de Marie. Le mystère de la résurrection, nous le vivons avec Marie. Et le mystère de l'ascension, nous espérons le vivre avec Marie et nous cherchons à le vivre avec Marie pour que ce mystère soit pour nous source d'une nouvelle espérance et d'une grande espérance et d'une espérance qui agrandit notre cœur en donnant un grand désir, un grand élan qui fait qu'on ne peut pas se replier sur soi-même. C'est absolument impossible. Quand on a cette grande espérance eschatologique, on ne peut pas se retourner sur soi-même. On est en attente de celui qui doit venir, de celui qui vient, de celui qui vient bientôt, de celui qui nous attend, de celui qui suscite en nous un appel, un désir. Il faut vivre ce mystère de l'ascension avec Marie. Essayons de comprendre comment Marie a vécu ce mystère. Je vous disais ce matin, Marie a compris que ce mystère, pour son cœur de mère, de petit enfant de Jésus et du Père, c'était un très grand mystère, puisque c'est un appel impératif de ne plus vivre des choses de la terre, en premier lieu. C'est un mystère qui nous enlève, vous voyez, cette espèce de goût trop humain que nous avons, des choses qui sont immédiatement proches de nous, qui sont en connaturalité avec nous. Ce mystère de l'ascension de l'intérieur, puisque c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, nous empêche de nous arrêter à nous. Nous empêche de nous arrêter au bien terrestre, au bien spirituel, pour nous attacher au mystère de Jésus qui est auprès du Père. In sinu patris, qui est dans le sein du Père. C'est bien ce que Marie a vécu dans ce mystère. Pour Marie, c'est une très grande joie, ce mystère. Puisque Jésus est auprès du Père et que le Père est plus grand que lui. Et que c'est toute la grande mission du Christ qui a commencé en Marie et qui se termine auprès du Père. In sinu Mariae, in sinu Patris. Toute la mission de Jésus, elle a commencé à partir de Marie. Il a toujours été auprès du Père, mais je parle de la mission du Christ. Il a commencé en Marie et il s'achève dans le sein du Père. Par le mystère de l'ascension. Par le mystère de l'ascension, nous voyons cet achèvement dernier du Fils bien-aimé qui retourne vers le Père. Il y a eu le fiat au point de départ pour que le Verbe puisse se faire chair en Marie. Il a fallu le fiat de Marie. Et c'est grâce à ce fiat que le mystère d'incarnation s'est réalisé. Y a-t-il eu de nouveau un fiat pour l'ascension? On peut se poser la question. Puisque toujours l'alpha et l'oméga se tiennent. Est-ce que Jésus n'a pas demandé à Marie de coopérer à cet ultime moment de sa vie, de son pèlerinage terrestre. Je le croirais assez volontiers. C'est pas révélé, mais j'allais dire, ça va de soi. Il y a eu le fiat à la croix, alors ça nous pouvons en être sûrs. Marie a dit son fiat pour pouvoir vivre à l'unisson du cœur de Jésus. Autrement, elle n'aurait pas vécu à l'unisson du cœur de Jésus. Elle aurait été un peu à côté, un peu en dehors. Elle a dit son fiat pour vivre ce mystère de la compassion et de le vivre dans cette plénitude qu'elle l'a vécu. Le mystère de la résurrection, il était nécessaire qu'il ressuscite. Il n'y a pas eu le fiat de Marie. Il y a eu la prière de Marie pour qu'il ressuscite. Et je crois qu'il y a encore le fiat de Marie pour le mystère de l'ascension. Marie a dit fiat au nom de tous les hommes, en notre propre nom. Vous n'avez qu'à le dire, et vous verrez que Marie l'a bien dit avant vous. Nous devons tous accepter divinement que Jésus ne soit plus au milieu de nous. Ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, en disant ça aurait été merveilleux qu'il soit au milieu de nous. Eh bien, nous devons accepter librement, à la suite de Marie, dans le fiat de Marie. Je crois que ça fait partie de ce mystère de l'ascension. Jésus veut que nous soyons heureux que lui soit auprès du Père. Jésus veut que nous soyons dans la joie, que lui est auprès du Père dans la joie. Et que nous regardions en premier lieu la joie du cœur du Christ. Nous regardons en premier lieu ce qu'il est. Il est le Fils bien-aimé du Père. Et parce qu'il est le Fils bien-aimé du Père, il doit être auprès du Père. C'est ça que nous regardons en premier lieu. C'est pas nous, c'est pas notre situation en disant « Ah, nous n'aurons plus d'apparition de Jésus. » C'est pas la question. Jésus nous conduit au Père. Et donc s'il est auprès du Père, c'est là où il peut exercer de la manière la plus forte son attraction d'amour. Et si nous disons oui à ce mystère de l'ascension, c'est pour être plus capable d'être attiré par Jésus, d'être pris par lui. C'est d'être plus capable de se laisser prendre par son appel et d'être avec lui auprès du Père. Je crois que nous devons demander à Marie de dire ce fiat intérieur. Jésus l'attend de nous. Ce fiat libérateur d'une certaine manière. Puisque nous sommes dans la joie qu'il est auprès du Père. Nous sommes dans la joie que toute la mission s'achève in sinu patri. Nous sommes dans la joie que par et dans le Christ, notre humanité soit pleinement glorifiée, soit pleinement transformée par le mystère du Verbe de Dieu. Que notre humanité soit fils bien-aimé de Dieu, c'est inouï et c'est grand. Et c'est la joie de Marie de voir que son fils est auprès du Père et qu'il demeure auprès du Père assis à la droite, c'est-à-dire vivant pleinement de la toute-puissance du Père, de la plénitude de sa lumière et de son amour, vivant à l'unisson du Père. C'est la plus grande joie pour Marie, cela, pour son cœur contemplatif. Marie ne regrette rien de tout le passé. Parce que tout a été vécu dans la limpidité de son cœur. Et tout a été vécu dans cette intensité d'amour. Marie ne regrette rien et elle veut aller plus loin. Une nouvelle étape d'amour et de contemplation très simple, enveloppée par la gloire de son Fils, portée par lui, pour être avec lui auprès du Père. Et c'est cela que nous devons vivre dans ce mystère de l'ascension. Ce que Marie a vécu, nous devons le vivre. C'est pour nous, puisque nous sommes les enfants de son cœur. Nous faisons partie de la descendance de la femme. Il faut que nous comprenions cette attitude de foi, d'espérance et d'amour que Marie nous enseigne dans ce mystère de l'ascension. Accepter d'adhérer pleinement à Jésus, ne pas chercher à se le représenter, sauf si nous en avons absolument besoin. Mais autrement, on adhère à cette présence du Verbe incarné qui est dans le sein du Père, tout entier tourné vers le Père. Nous y adhérons pleinement pour que lui-même nous introduise. Nous sommes faits pour ça. Vous voyez, comme le mystère de l'ascension doit être pour nous comme un renouveau d'une soif contemplative. C'est vraiment le mystère qui nous montre qu'il n'y a pas d'autre issue. Tout le reste, c'est à côté. La contemplation doit s'imposer à nous comme une exigence de descendants de la femme, de ceux qui veulent être fidèles à Marie jusqu'au bout. C'est ce que Marie nous enseigne dans ce mystère de l'ascension. C'est que nous sommes faits pour cela. Des modalités différentes, ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est que ce soit l'Esprit Saint qui, par Marie en elle, nous permette de vivre à l'unisson du cœur de Jésus, tout proche de son Père. Caché dans le secret de son Père, caché dans son amour, et transformé par son amour. C'est l'humanité sainte de Jésus qui, dans sa gloire, présente au Père, toute donnée au Père, nous accueille, et nous prend, et nous enveloppe, et nous porte. Il faut se laisser envelopper par l'humanité sainte de Jésus et comprendre qu'il vit ce mystère de l'ascension pour nous. Et ce mystère de l'ascension, puisqu'il le met dans l'éternité, il est toujours actuel. Aussi actuel qu'il ne l'a pour nous, qu'il ne l'a été pour les apôtres. Si notre foi est semblable à celle des apôtres. Si notre foi est moindre, évidemment, c'est dans la mesure même où nous croyons que nous vivons de ce mystère et que nous pouvons entrer dans cette intimité du Fils bien-aimé qui est caché dans le sein du Père. C'est dans la mesure où notre foi, notre espérance et notre amour prend possession de tout nous-mêmes, alors déjà dès cette terre, et cette sortie de nous pour entrer dans ce contact simple, très grand, avec celui qui est tout entier caché auprès du Père, par amour pour nous. Pour Marie, le mystère de l'ascension est un mystère d'une plus grande présence. Ce n'est pas du tout la rupture, ce n'est pas du tout la séparation, c'est une plus grande présence. Une présence comme envahissante et d'une efficacité souveraine, assis à la droite du Père. Il a toute l'autorité du Père, toute l'efficacité du Père. C'est une présence envahissante qui la prend au plus intime d'elle-même et qui la met dans le silence auprès du Père. Le mystère de l'ascension, c'est le vado ad patrem, hein, et c'est ce mot d'ordre que Jésus nous donne et que nous devons vivre. Il faut que tout en nous tende vers le Père. Il faut que tout en nous soit pris par le Père, attiré par lui, et que nous vivions de sa présence. Et que sa présence soit pour nous une présence de lumière et d'amour. Marie a vécu ce mystère de l'ascension avec une espérance du retour de Jésus. Ah, ça, c'est peut-être la chose la plus belle, hein, à regarder dans le cœur de Marie, son espérance eschatologique. La manière dont Marie reçoit ces paroles des anges. Hein. Il reviendra de la même manière. S'en aller vers le ciel. Pour Marie, il ne s'agit pas là de compter les jours. Ce serait nous remettre dans le temps. Il s'agit d'une orientation de son cœur. Et cette orientation, Marie nous demande de la voir avec elle. Accepter un déracinement de tout nous-mêmes pour être fixé. Fixé au plus intime du Père. Et l'être déjà dit maintenant, un jour, ce sera en pleine lumière, mais c'est déjà vrai maintenant. Et parce que c'est déjà vrai maintenant, cette attitude nous permet, nous donne la force d'accepter tout le travail que Dieu nous donne. Voyez, si nous regardions notre vie religieuse dans cette lumière, comme ce serait magnifique. Tout ce qui peut paraître, hein, vu de l'extérieur, comme des limites, vous savez bien, je vous l'ai déjà dit, depuis Leibniz, pour nous, détermination et limite sont confondues. C'est une terrible chose, parce que je crois que ça explique des quantités de repliements sur nous. Les vœux nous déterminent vers le Père, mais ne nous limitent pas. Au contraire, ils doivent mettre en nous toujours un nouvel élan. Très frappant, ça, on voit très bien l'attitude du démon. Vous savez, le démon, il sait très bien que l'intelligence, elle joue un très grand rôle pour nous. Et quand le démon fait des confusions dans l'ordre de la vérité, on voit progressivement les applications se faire. Faire la confusion entre la détermination et la limitation, c'est une chose terrible, ça. Parce que ça nous empêche de nous déterminer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, hein, le démon le sait très bien, nous déterminer, c'est créer en nous la panique. C'est très curieux. Parce que ça devrait être l'inverse. Se déterminer vers le ciel, c'est ouvrir notre cœur à l'attraction du Père. C'est ouvrir notre cœur à l'attraction de Jésus. On est fait pour ça. C'est être pleinement finalisé. Et donc ça nous libère complètement. Et le démon fait, par son astuce, que cette détermination vers le Père, qui nous ouvre vers le Père, qui nous rend particulièrement capable d'être attiré par lui, dans une espèce de panique, c'est pour nous comme un retrécissement, un repli sur nous, une limite, et qui fait que ça devient insupportable. Je dis ça par rapport à la vie religieuse, c'est vrai par rapport au mariage. Pourquoi vous voyez tant de jeunes aujourd'hui qui ne veulent plus s'engager dans le mariage? Parce que pour eux, c'est une détermination qui implique une limitation. Alors qu'une détermination, quand elle est faite dans la ligne même de ce qui est bon pour nous, devrait au contraire nous épanouir. Il faut être très attentif à ça, parce que nous portons tous, hein, sans le savoir. Ceux qui le savent sont déjà à moitié guéris. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas que le démon est là pour que, de fait, il crée des paniques. La panique de s'engager. La prise d'habit est déjà un peu ça, parce que c'est un engagement quand même. C'est évident, c'est un engagement. Mais la profession est un engagement, et la profession perpétuelle encore plus. Il faut comprendre que c'est l'Esprit Saint qui nous attire, que c'est le Père qui nous attire, que c'est Jésus qui est là, pour que nous puissions aller plus loin dans l'ordre de l'amour. L'amour réclame une détermination de vie. Un amour qui n'a aucune détermination de vie se transforme en velléité. Très, très vite. Alors, sans là, il n'a plus aucune force. Et ce qui explique, quelquefois, comment si vite, on n'a plus aucune force. On est comme vidé. Ça, c'est la velléité qui prend possession de nous-mêmes. Parce que on a eu peur de la détermination. On a eu peur d'être lié, l'alliance, d'être pris, d'être saisi par le Christ et d'être tout à lui. Il faut que nous demandions à la Vierge Marie de nous donner cette force intérieure pour nous préparer à la Pentecôte et puis surtout pour nous préparer au grand combat de l'Église militante, de ce grand combat dans lequel on sera nécessairement. Dieu vous a fait naître dans la dernière partie du XXe siècle pour que vous viviez ce combat. Il ne vous a pas demandé de choisir, heureusement. Parce que si vous aviez choisi, il y a des chances que vous n'auriez pas choisi ce temps. Mais il a voulu. Et il voulait lui mettre des êtres fragiles pour bien montrer que ce n'est pas leur force. Je crois que nos ancêtres étaient beaucoup plus forts que nous. Je crois. Ils n'avaient pas toutes ces erreurs philosophiques à porter. Et toutes ces erreurs philosophiques à porter, toutes nous affaiblissent. Tout le temps. Chaque fois qu'il y a une erreur, ça affaiblit l'affectivité. Ça affaiblit la volonté. Ça ne peut pas être autrement. Alors, il faut comprendre que si Dieu nous a fait naître dans cette dernière partie du XXe siècle, naître à la vie du baptême, naître à la vie religieuse, c'est parce qu'il veut qu'au milieu d'un monde où il y a tant de difficultés de lutte, où il y a tant de jalousie, où il y a tant de meurtres, au milieu de ce monde où l'erreur est si forte, parce qu'elle a toujours été grande, on peut dire d'une certaine manière qu'elle n'est pas plus grande aujourd'hui, et d'autre part on peut dire dans la lumière de l'Apocalypse et dans ce que nous dit le Saint-Père que la lutte est plus forte et que la lutte n'a jamais été aussi forte, et c'est vrai, et c'est encore plus vrai de dire ça que de dire l'autre. La lutte n'a jamais été aussi forte, mais plus la lutte est forte, plus la grâce sera. Grâce, c'est d'être tourné vers le Père par le cœur de Jésus, dans son mystère de l'ascension. C'est d'être porté dans le Père par Jésus. Et c'est d'avoir cette force d'une grande fidélité. La force d'une grande fidélité qui consiste à tout donner et à ne rien garder. Ça, c'est le mystère de l'ascension. Tout donner, il n'y a plus rien du Christ sur la terre. Plus rien du tout. Elle n'est même pas laissée comme Élie à Élisée son manteau. Non, même pas. Il savait trop bien que ça ferait des luttes entre les disciples. Alors il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu, rien laisser du tout. Pour que on le retrouve intérieurement. Pour que ce soit plus intime de nous-mêmes. Que nous vivions de lui et que nous soyons portés par lui et que nous soyons liés au Père. À demander cette très grande grâce à Marie pour vous, pour tout le noviciat, pour toute la communauté, en préparation à ce mystère de la Pentecôte et surtout en grande préparation du retour de Jésus.
Douloureux Immaculée Marie, vous bénis.